France Inter.
Le nez dans les plantes, la main verte avec vous Alain Baraton, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Jardinier de Versailles. Alors on a déjà parlé ici même du cèdre du Liban. Mm-hmm. Ce matin vous nous présentez un autre cèdre.
Oui, on pense toujours qu'au cèdre du Liban, une plante originaire du Liban. Il existe aussi, on le sait bien, le cèdre de l'Atlas. Là aussi un conifère extraordinaire qui est né dans les montagnes du même nom en Afrique du Nord. Et on oublie le troisième cèdre qui a toute ma tendresse, le cèdre de l'Himalaya qui est un arbre absolument extraordinaire, et qui est né sur un territoire qui est quand même pas ridicule, du Népal et du Cachemire jusqu'à l'Afghanistan, ce cèdre de l'Atlas, de l'Himalaya, je vous remercie, a été introduit en Europe il y a déjà très longtemps, en 1831.
Alors du coup, expliquez-nous, comment est-ce qu'il se distingue des deux autres, et pourquoi est-ce qu'il est aussi imposant?
Le cèdre de l'Himalaya a une forme pyramidale, un branchage souple et retombant, et ses aiguilles sont d'un vert prononcé. Pour faire simple, prenez un cèdre du Liban, teintez-le légèrement d'un vert un peu plus clair et qu'il soit un petit peu plus délicat, un peu comme de la dentelle, et vous aurez donc un cèdre de l'Himalaya. Mais sachez quand même que cet arbre adulte peut atteindre une hauteur d'une cinquantaine de mètres et qu'en Asie, il en existe quelques spécimens qui atteignent 80 mètres.
Alors on sait que le bois du cèdre du Liban est d'une très très grande qualité. Est-ce que c'est le cas également du cèdre de l'Himalaya ?
Oui, le cèdre du Liban qui fut massacré dans les forêts pour justement la qualité de son bois. Eh bien sachez que le cèdre de l'Himalaya, qui est aussi appelé du côté de l'Himalaya Déodar, eh bien Déodar qui signifie bois d'œuvre des dieux. Tout est dit dans ce mot.
Mmh. Il paraît que Dieu reconnaîtra les siens, Alain Baraton.
Mais tout à fait.
Vous en prenez bonne note.
Oui.
Laurence nous a écrit, elle vous demande, Alain Baraton, est-il facile de bouturer les calanchoées?
Qu'est-ce que c'est d'abord?
Mais on ne se précipite pas. Alors le calanchoée, c'est une plante comme un petit cactée, avec des feuilles qui sont assez épaisses, coriaces. C'est une succulente. Et ce petit cactus, entre guillemets, qui n'en est pas un, qu'on soit bien clair, fleurit très joliment tout au long de l'année. Le calanchoée est un petit végétal que l'on trouve souvent dans les compositions. On en voit moins pour les fêtes de fin d'année, mais à une époque, il était de bon ton d'offrir aussi ses coupes florales. Il y avait toujours le calanchoée. Donc, le calanchoée est une petite plante avec des feuilles très épaisses qui fleurit et qui se bouture très facilement, mais attention, en mai et en juin uniquement, donc c'est pas la peine de se précipiter.
C'est pas le moment.
Et vous prenez donc une tige de 5 à 8 cm de longueur, vous supprimez toutes les feuilles du bas, vous n'en gardez que deux aux extrémités, vous les plantez 3 par 3, vous les enfoncez d'un tiers dans une terre vraiment très légère, sablonneuse, vous arrosez, vous mettez une petite bouteille par-dessus pour recréer l'ambiance un petit peu micro-serre et vous aurez bien entendu ensuite quelques plants de nouveaux calanchoées.
Et quand vous dites que le calanchoée est une succulente, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'en fait les plantes sont gorgées d'eau, ce qui explique pourquoi la plante, qui n'est pas vraiment un cactée, eh bien a mis en place ce dispositif pour vivre dans les régions où l'eau souvent manque.
Armel rappelle que les plantes sont attirées par la lumière. Est-ce pour cette raison que les arbres poussent droit vers le ciel ?
Oui, mais pas que. Il existe différents facteurs qui influencent la croissance d'une plante. Le liseron, par exemple, est attiré par les plantes qui vont lui permettre de grimper et de trouver la lumière. On appelle l'aptotropisme, c'est la croissance par le contact. Lorsque vous avez une plante qui est attirée par l'eau, on parle d'hydrotropisme. Quand la plante, et je réponds à votre question, est attirée par la lumière, on fait état de phototropisme.
Photosynthèse.
Oui, tout à fait, phototropisme, photosynthèse. Et puis il y a également un autre critère qui rentre en ligne de compte et qui est capital pour les arbres. Prenez l'exemple des montagnes, quand vous avez tous ces sapins qui poussent vraiment bien droit en direction du ciel.
Alors qu'ils sont sur une pente.
Tout à fait. Mmh. Et là, on a donc affaire au géotropisme. C'est l'action de l'attraction terrestre, de la pesanteur, si vous préférez, qui font que, associés au phototropisme, effectivement, les végétaux se dirigent vers le ciel.
Marthe voudrait purifier l'air de son appartement. Elle vous demande quelle plante me faut-il installer dans mon appartement pour purifier l'air que je respire.
Eh oui, benzène, trichloréthylène, que de merveilles chez vous. D'où la nécessité d'aérer au minimum 10 minutes par jour votre intérieur. Alors il se dit que quantité de plantes chez vous vous permettent de dépolluer efficacement votre intérieur. Cette idée est née des travaux de la NASA qui se demandait comment dépolluer une navette spatiale dans l'atmosphère. Eh bien, cela fonctionne, mais pas à l'échelle d'un appartement. Soyons clairs, les ficus, les chlorophytomes et autres philodendrons.
C'est bien ?
Oui, mais en quantité énorme, et ça ne suffira pas chez vous.
D'accord.
Jeannette, existe-t-il une méthode pour limiter en hiver le jaunissement de mon gazon ?
Oui, d'éviter de marcher sur la pelouse, tout simplement. On ne peut pas rattraper l'usure d'un gazon en hiver si le froid, pardonnez-moi, provoque quelques jaunissements, le piétinement, le gel, l'excès d'humidité, les feuilles que l'on n'a pas ramassées à l'automne, quantité d'éléments qui font que la pelouse souffre et retrouvera sa verdure au printemps.
Donc on ne va pas dans le jardin, quoi.
On évite, on regarde, on évite au maximum de piétiner une pelouse, sauf si bien sûr on a envie de vraiment d'en jouer, comme on dit.
Dernière question avec Victor qui aimerait tellement bouturer le rosier de sa maman qui nous a quitté, écrit-il. Comment bouturer un rosier en quelques secondes?
Oh, c'est en août, là encore, on enfonce dans le, oui, en été, on enfonce dans le sol une tige de 8 à 10 cm, peut-être 15 maximum. On ne garde que deux feuilles à l'extrémité. On supprime toutes les feuilles du bas. On supprime les épines. On fait une coupe bien nette. On achète des hormones de croissance que l'on trouve dans toutes les bonnes jardineries. On la trempe à l'intérieur. On plante ainsi la petite bouture et on obtient quelques semaines plus tard un nouveau petit rosier.
Ça marche à tous les coups?
Souvent, oui. Oui.
Un dernier livre.
Arnaque, drague et botanique. C'est un ouvrage assez amusant sur les plantes incongrues. Il est de Mathilde Magnan et les textes sont de Xavier Mathias. Joliment illustré. On y apprend quantité de choses sur nos drôles de plantes.
Allez prendre un petit thé
pour
cette
terre vivante.
Cette vilaine voix d'hiver.
Oui, c'est juste
Baraton.
Un chat dans la gorge.
Un petit chat, il est là.
7h46.